C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie.
Bonsoir, Roselyne.
Souvent, Trump varie, on le savait, mais pouvait-on imaginer une telle farce, une farce tragique, qui a fait plonger lundi les bourses mondiales? Le président américain joue avec la mondialisation comme d'autres au Monopoly, après avoir annoncé 20% de taxes à l'Europe, puis porté à 125% les droits de douane pour la Chine. Donald Trump lance les soldes de printemps. Finalement, ce sera 10% en attendant les négociations avec 75 pays pendant 80 jours. Mais la Chine reste punie d'avoir riposté. Donc virage à 180 degrés, volte-face de l'ingénieur du chaos américain. Joue-t-il avec les marchés? S'est-il rendu compte de sa bévue? Ou est-ce de la bêtise ou d'une stratégie savamment orchestrée? D'ailleurs, certains démocrates accusent Donald Trump d'avoir manipulé les marchés. En France, comme un malheur n'arrive jamais seul, Laurent Wauquiez, qui peine dans sa course à la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau, a lancé l'idée d'envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon les individus dangereux frappés d'obligation de quitter le territoire. On parlera aussi de la proposition d'Emmanuel Macron d'un État palestinien. On en parle avec Catherine Tricot, directrice de la revue Regard.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Bruno Jeudy, bonsoir, vous êtes directeur de la Tribune Dimanche.
Bonjour.
Et Bruna Basini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et auteur avec Pierre-Henri de Menton de Tout est son contraire aux éditions Buchet-Castel. Alors, comprendre les grandes controverses économiques d'aujourd'hui. Votre livre explique pourquoi les économistes ne sont jamais d'accord. Mais aujourd'hui, on peut prendre le titre de votre livre pour l'adapter à Donald Trump. Tout est son contraire. Pourquoi une telle marche arrière du président américain?
Il y a plusieurs explications à cette marche arrière. Je pense que ça a déjà été dit, mais globalement, déjà, je pense que les amis, les milliardaires, les amis de la Silicon Valley de Donald Trump ou des marchés ont dû commencer à s'inquiéter évidemment de la chute des marchés financiers. Beaucoup ont perdu énormément d'argent, des milliards, 43 milliards, me semble-t-il, pour Donald Trump. Pour Elon Musk, pardon. Donc, il y a eu cette pression, probablement, oui. Des copains. Après, il y a les consommateurs qui parlent à la fois les Américains en tant que consommateurs et en tant qu'épargnants, puisque le système de retraite par capitalisation fait qu'ils ont dû avoir un œil sur les cours de bourse et un œil à venir sur leur portefeuille et leur panier.
Voilà, quoi. Ça c'est pour l'explication. Mais ça appelle
la troisième explication, la plus importante, c'est le sentiment de... la peur d'une crise souveraine sur la dette américaine. La dette américaine, c'est la plus grosse dette mondiale, 36 000 milliards de dollars... qu'il va falloir financer. L'Amérique doit en financer 7 000 milliards cette année. Ce qui s'est passé, c'est que les taux, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ont commencé à augmenter, sont passés de 3,5 à 4,5 en 3 jours. Et c'est à ce moment-là qu'on a dû dire à Donald Trump, là, il faudrait peut-être qu'on s'arrête, il faut peut-être calmer le jeu.
Trois explications. Mais j'ai envie de vous garder encore sur une petite question qui nous amène justement à votre livre. Donc une autre question, le président américain s'appuie sur des économistes, notamment le gourou de Donald Trump, Peter Navarro, qui explique que le libre-échange est néfaste pour les États-Unis. Alors que d'autres économistes disent le libre-échangisme, c'est bon. Où est la vérité s'il y en a une?
J'aimerais pouvoir vous répondre. Il n'y a pas de vérité, il y a simplement deux points de vue sur le libre-échange. Ce qui est certain, c'est que quand Donald Trump arrive aux États-Unis, enfin à la présidence des États-Unis, il arrive avec un commando d'économistes, de conseillers qui sont anti-libre-échange, qui sont protectionnistes, dont le fameux Peter Navarro. Celui que Elon Musk, un peu énervé, a traité de crétin et je crois aussi de bête, plus bête qu'un sac de briques. Hein. Voilà. Il y a le credo fort de Donald Trump sur le fait que il faut réindustrialiser le pays, donc ériger des frontières tout autour des États-Unis pour que les Américains achètent moins à l'étranger et que les grandes entreprises viennent s'installer aux États-Unis pour produire sur place. Comme ça, elles n'auront pas à payer de droits de douane. Enfin, cette mécanique, on l'entend depuis pas mal de semaines. Ça, c'est le raisonnement. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Faudrait tirer le bilan de 40, 50 années de libre-échange qui ont quand même marqué la construction de l'ordre économique mondial, en tout cas depuis 1945. Et là, effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes où, de mondialisation heureuse,
oui.
Je cite Alain Minc. Et puis, il y a eu des périodes, effectivement, où la mondialisation a été vue comme un facteur de, à la fois de désindustrialisation, de perte d'emploi. Et également, c'est quand même grâce à la mondialisation que la Chine est devenue la deuxième économie mondiale.
Alors, je vous propose d'écouter Donald Trump et on va vous écouter tous autour de la table. Donc, après cette décision, justement, de faire machine arrière.
C'est quelque chose dont nous parlons depuis un certain temps. Et nous avons décidé de passer à l'action. Nous l'avons fait aujourd'hui et nous en sommes satisfaits. Je ne savais pas que cela aurait un tel impact, mais c'est la plus grande hausse de l'histoire du marché boursier. C'est pas mal. Si cela continue, on va revenir au niveau d'il y a 4 semaines, mais c'était un marché malade il y a 4 semaines parce que ce commerce était malade. Ce n'était qu'une question de temps. Je n'en fais pas porter la responsabilité aux droits de douane. Je pense que les droits de douane ont simplement amplifié ce qu'il se passait.
Voilà, il a l'air content de son coup, Donald Trump.
Moins content que d'habitude, quand même. Il fait un peu grise mine. Alors ouais. Que d'habitude,
non, mais il dit les marchés étaient malades, je les ai guéris.
Oui, de toute façon, oui. Et puis son credo principal, c'est de dire que le déficit américain, que le déficit qu'il enregistre par exemple vis-à-vis de l'Europe, l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine, c'est la conséquence des mauvaises actions des Européens ou des Chinois. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que les Européens nous arnaquent. Mm-hmm. C'est ça son argumentation de base, qui n'a aucun sens. Mais absolument aucun sens. Il ne doit même pas savoir que le plan Marshall a existé. Donc le problème, c'est qu'on était, nous aussi, dans une vague qui portait au souverainisme et au protectionnisme. Et là, je pense qu'il y a quand même une leçon de choses qui s'impose sur le protectionnisme. Les faits parlent sur les conséquences du protectionnisme, les conséquences qui peuvent être catastrophiques. Pardon. Ouais. Donc ça doit nous servir de leçon de choses à un moment où, dans d'autres domaines, comme la démocratie dite illibérale, ou le fait que l'état de droit soit quand même pas mal balayé, et qui inspire un certain nombre de politiques, y compris en France. Là, je veux dire, il y a toujours du grain à moudre pour celles et ceux qui veulent s'inspirer du trumpisme. Mais sur le parti central qui était protectionnisme, souverainisme, là, je pense que quand même, il y a une leçon de choses qui devrait s'imposer et infléchir le débat public en France.
Catherine, oui, vous levez les yeux.
Je partage pas complètement votre analyse, parce que, alors, pour le coup, on peut penser que la progression des idées illibérales, la remise en cause des démocraties, elle s'appuie sur des sociétés qui n'ont pas bien supporté la période de libre-échange que nous venons de vivre, c'est-à-dire que les rednecks aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui sont dans la partie américaine industrielle qui ont perdu. Donc, et c'est quand même eux qui ont aussi porté Donald Trump au pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est là que les démocrates ont perdu et qu'il y a eu un transfert de voix vers le parti républicain et en tout cas le candidat Donald Trump. Et puis, c'est quelque chose qu'on observe aussi en France. Je veux dire, en France, on voit bien que les zones de force de Marine Le Pen, elles sont soit dans l'arc méditerranéen sur des bases identitaires, soit dans la partie nord et est de la France sur la base de la désindustrialisation.
Sur l'analyse, tout à fait d'accord. Simplement, les remèdes proposés, manifestement, c'est pas cette voie-là qu'il faut suivre.
Alors,
Parce que les droits de douane absolument hallucinants qu'il prétend imposer, ça va provoquer une récession mondiale. Il y a les taux le font sans doute reculer, la montée des taux. Mais il y a aussi le fait que les institutions bancaires, les institutions patronales, les institutions syndicales aussi mettent tout en garde. De critiquer la l'égalité même de ce qu'il fait. Et donc ça, c'est très nouveau aux États-Unis.
Oui, je partage avec vous la critique sur la méthode. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le diagnostic qui est, la mondialisation a profondément déstabilisé des pays, non seulement des économies, mais des sociétés. C'est pas simplement les économies. C'est aussi des sociétés qui ont été déstabilisées. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il propose quelque chose avec lequel que je ne partage pas dans la méthode. Mais en tout cas, il a mis le focus sur une question. J'ajouterai une toute petite. C'est qu'au moment où il est en train de parler de la suprématie par rapport à la Chine, il se rend même compte qu'il n'est pas capable, en cas de guerre, d'avoir l'appareil productif pour produire
C'est bien ce que disait Jean-Marie, le son de choses, et je suis d'accord avec lui. Au fond, Donald Trump s'est colleté au réel assez rapidement, comme Liz Truss s'était aussi colleté avec le réel assez rapidement, et ses leaders protectionnistes, isolationnistes, souverainistes, appelons-les comme on veut, populistes, eh bien, ils montrent qu'une fois au pouvoir, quand ils vont au bout de leur logique, eh bien, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe quasi immédiate. Oui. Et que Trump, à la différence de Liz Truss, il recule avant que ça devienne, Bruno l'a parfaitement expliqué, avant que ça devienne irréversible. Et qu'il soit peut-être lui-même, vidé par la rue, puisque ça a commencé déjà à gronder sérieusement aux États-Unis. Donc on voit bien la catastrophe. Et je trouve que c'est une excellente leçon de choses pour nous ici. On n'entend plus trop. Il paraît qu'il y a eu quelques politiques qui sont allés soutenir Trump, sont allés voir Trump aux États-Unis. Je suis sûr qu'ils ne se souviendront plus qu'ils y sont allés assez rapidement et que ceux qui soutiennent une partie des thèses de Trump ici, eh bien, on les entendra sans doute un peu moins. En tous les cas, ils fanfaronneront moins avec les idées totalement protectionnistes dans un monde. C'est ne pas se confronter au réel.
Juste parce que Bruno,
Un petit détail que j'extrais du
point. Je ne suis pas pour autant un hyper-libéral. Je pense qu'il y a des questions qui sont posées. En tous les cas, les remèdes apportés par Donald Trump qu'il a voulu imposer en quelques semaines. Il a vu que ça ne marchait pas.
Une petite illustration que j'extrais de la lecture de l'hebdomadaire Le Point. Pour fabriquer un iPhone 15, il faut l'intervention de 40 pays et de 200 ingrédients différents. 200 ingrédients différents venant de 40 pays. Ouais. Comment voulez-vous faire dans une économie qui fonctionne de cette
façon? On ne mondialise pas les chaînes de valeur pendant 50 ans impunément. Et c'est bien toute la difficulté aujourd'hui. C'est que même à la sortie du Covid et lorsqu'on s'est à nouveau interrogé, et on a parlé de régionalisation de la mondialisation, etc., comme la solution au problème, faire revenir la production de médicaments en France, on s'est rendu compte finalement que c'était beaucoup plus compliqué à réaliser qu'on pouvait.
Vendre des idées simplistes pour gagner une élection, c'est une chose. Les appliquer ensuite, c'en est une autre. On l'avait déjà vu avec le Brexit. Vu avec le Brexit. Aujourd'hui, les Anglais, ils ne revoteraient pas pour le Brexit.
Mais quand je recevais cette semaine avec Frédéric Rivière sur RFI France 24, Manon Aubry, qui est un peu l'air gênée aux entournures, et elle parlait de protectionnisme solidaire. Ah oui. Donc, l'air de dire, il y a un protectionnisme idiot.
Qu'on essaie,
Voilà, il y a un protectionnisme idiot qui est celui de Donald Trump, et nous, on a un protectionnisme. Oui. Parce que, dans le fond, la France insoumise, on sent bien qu'ils sont pas, leurs idées ne sont pas totalement éloignées. C'est un peu l'autarcie économique.
Ah oui, bien sûr.
Donc, ils le disent pas si haut et si fort, mais parler de protectionnisme.
Comme le localisme aussi, cher au Rassemblement National.
Solidaire.
Oui. Mais Bruno, une dernière question, après on va passer à Emmanuel Macron. Est-ce que, dans le fond, Donald Trump fait tout ça pour, en fait, imposer, derrière tout ça, il y a l'idée d'imposer la Chine avec 104% de...
Ce recul vis-à-vis du reste du monde, sauf la Chine, ça acte aussi... l'ambition de créer un découplage avec la Chine au niveau mondial, c'est-à-dire que l'ennemi absolu et des Trumpistes et de l'Amérique, d'une certaine manière, des États-Unis, c'est la Chine aujourd'hui. C'est la Chine qui leur exporte énormément de produits, trop de produits, qui ne leur achète pas assez de produits et qu'ils voient comme une menace sur tous les fronts, y compris sur le front technologique. À la faveur des, je crois, 5 ou 6 dernières années, la Chine est devenue... concentre un tiers de la production industrielle mondiale aujourd'hui. Donc c'est effectivement une force qui avance. Et ça aussi, c'est pour ça qu'il va y avoir probablement, il va s'engager une négociation entre les deux superpuissances.
Alors maintenant, en quoi vont consister ces négociations? Écoutons le ministre de l'économie, Éric Lombard.
Il faut qu'on se donne le temps de la négociation. Les Américains nous ont toujours dit qu'ils souhaitaient que les négociations commencent le 22 avril lors des réunions de Washington, auxquelles je serai présent, et nous verrons si nous pouvons avancer. Et j'ai bon espoir qu'on puisse avancer. Et sinon, malheureusement, il faudra effectivement que l'Europe réponde.
Alors Catherine, en quoi vont consister ces négociations?
Est-ce que ça sera des négociations
par pays? On va négocier, mais de quoi?
Non. Ça va être des négociations par pays. Je ne sais pas, Giorgia Meloni a l'intention de se rendre la semaine prochaine aux États-Unis. Donc elle va, elle, essayer de négocier pour le compte de l'Italie.
Oui, est-ce qu'il y a un risque, justement, qui est comme ça, des duos, des bilatérales, où chacun...
Moi, je pense que ça fait partie vraiment du risque.
Pour diviser les Européens.
Et d'ailleurs, je pense même que ça fait partie de la stratégie. c'est pas simplement un risque, c'est une stratégie américaine pour affaiblir l'Union européenne.
C'est très vrai. La stratégie, c'est très vrai, mais le point d'impact qui serait Giorgia Meloni, faut voir. Parce que Giorgia Meloni, aujourd'hui, elle vit des subsides européens et elle s'en sort grâce aux subventions européennes.
Le plan de relance.
Et elle a aussitôt précisé, avant d'aller aux États-Unis, elle a aussitôt précisé qu'elle parlerait aussi au nom de l'Union européenne. Donc, c'est plus difficile que cela aujourd'hui de mettre un coin entre les Européens, hormis la Hongrie.
Bien sûr. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est je partage avec vous l'idée qu'il a fait un peu un travail de gribouille et qu'il est allé comme un chien dans un jeu de quilles en pensant qu'il suffisait d'être Donald Trump et en 3 mois, il rétablissait, il reconstruisait une économie.
Il allait apporter la paix en Ukraine.
La paix en Ukraine, la paix à Gaza, etc.
Monumental échec, on n'en parle déjà plus, mais
monumental échec, ce qui se passe en Ukraine. Et à Gaza aussi. Donc, on va en parler dans 5 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que... Néanmoins, la question de la réindustrialisation des États-Unis, de l'Europe, est une question réelle. Et la question que vous avez soulignée, qu'elle produisait un tiers de la production industrielle, la Chine produisait un tiers de la production industrielle mondiale, mais elle est aussi aujourd'hui leader sur les brevets à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'elle est quand même, elle est plus simplement notre manufacture et nos usines, elle est aussi leader sur les questions technologiques. Et ça, c'est quand
c'est un immense risque
pour les États-Unis qui en plus voient leur cerveau chercher une solution plus rassurante que celle qu'ils vivent actuellement.
Alors, on va parler d'Emmanuel Macron, Bruno, qui reprend son bâton de pèlerin diplomatique. Le président était en Égypte pour demander un cessez-le-feu et réclamer un État palestinien. On l'écoute.
On doit aller vers une reconnaissance. Et donc, dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence, où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
Bruno, donc la classe politique est plutôt divisée sur cette proposition, non pas sur évidemment un État palestinien, mais plutôt sur le momentum. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne en Cisjordanie n'a plus prise sur grand-chose, et à Gaza, il y a le Hamas qui contrôle toujours. Donc c'est quoi, un défaut de partenaire? Est-ce que c'est le bon moment?
Alors, justement, sur la question du moment, 2 choses, Rosine. Un, on aurait pu repasser les mots d'Emmanuel Macron, je n'ai pas regardé exactement la date, mais un peu avant que l'Espagne adopte au Parlement la décision de reconnaître l'État palestinien, Emmanuel Macron a vu des mots qui allaient dans le même sens, c'est-à-dire c'est trop tôt, c'est pas le moment, on le fera dans quelques mois. Donc, au fond, tire le même fil aujourd'hui. Sauf que dans l'extrait que vous venez de passer, il fixe un peu à l'État au mois de juin. Il donne quand même un horizon plus précis. Il n'a pas changé d'avis, au fond, Emmanuel Macron.
C'est la position française.
Sauf que là, il emboîte le pas de pas mal de pays européens qui maintenant ont adopté cette position. Ils l'ont fait adopter dans leur parlement nationaux ou de manière officielle. Donc au fond, ils s'alignent sur cette position qui est une position qui un peu domine en Europe. Après, la division dans la classe politique française, elle est liée à la position des mêmes partis par rapport à ce qui s'est passé au 7 octobre. Donc on voit bien les divisions politiques se mettre en place. La gauche, globalement, est sur une position de reconnaissance, celle d'Emmanuel Macron. Les macronistes suivront sans doute Emmanuel Macron. La droite, sans doute plus divisée, et le RN sera opposé.
Peut-être, Jean-Marie, Catherine. Jean-Marie, est-ce qu'il y a un sentiment d'agitation enfin, qu'il y ait une agitation diplomatique d'Emmanuel Macron pour la bonne cause, hein, sans doute, parce qu'il n'a pas à faire grand-chose en ce moment ou à décider sur la scène française.
Mais oui, sauf que mais c'est le problème de toute diplomatie.
Et ce que disait Catherine, tout le monde se détourne un peu sur de la Russie parce que personne n'arrive à quoi que ce soit.
La Russie, c'est autre chose, mais...
Non, mais on se détourne vers d'autres...
Oui, enfin, là, le problème, c'est que nous n'avons que la diplomatie comme arme d'influence, comme arme de pression. C'est l'obstacle à toutes ces pressions diplomatiques qui vont dans le même sens, européennes notamment, elles vont exactement dans le même sens depuis longtemps. L'obstacle, c'est Donald Trump, qui soutient mordicus le gouvernement israélien actuel, et qui fait que le gouvernement israélien actuel n'en tiendra pas compte. Donc, quand Emmanuel Macron plaide pour quelque chose qui fait d'ailleurs consensus, si on regardait l'Assemblée générale des Nations unies, on pense que cette position peut être majoritaire. Sauf que Israël n'en veut pas, l'actuel gouvernement d'Israël ne veut pas d'un État palestinien, et le Hamas ne veut pas d'un État israélien. Donc, tant que ces deux interlocuteurs, tant qu'ils seront face à face, c'est-à-dire le gouvernement actuel largement soutenu par l'extrême droite israélienne et le Hamas, tant qu'il est là, on n'y arrivera pas. Et ça restera des vieux pieux et on continuera à dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'humanitaire et on fait des pressions diplomatiques. Mais il y a...
Oui, prêcher dans le désert. Mais Catherine, vous dites aussi, c'est une façon de se rapprocher des pays arabes ?
Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que le fait qu'on ait laissé pourrir cette situation à l'échelle internationale et que l'ONU n'ait pas réussi à faire respecter les multiples résolutions pour la reconnaissance d'un État, pour la création d'un État palestinien, et, a beaucoup porté atteinte, à mon avis, à l'ONU, l'a fragilisée. Et le fait qu'il y ait eu ce sentiment d'avoir de l'impunité à l'égard d'Israël dans ce qui est quand même des crimes de guerre à répétition qui se passent à Gaza, je crois que ça fragilise beaucoup le rapport du monde occidental avec le reste du monde, et en particulier avec le monde arabe. La position de la France était quand même relativement forte et appréciée dans le monde arabe. Bon, tout le monde se souvient de Jacques Chirac. Alors la droite a l'air de l'avoir oublié, mais le reste de la France s'en souvient. Et aujourd'hui, je crois que Emmanuel Macron travaille aussi à retrouver un lien de confiance avec le monde arabe. Ça suppose que Retailleau arrête ses dingueries sur l'Algérie, et ça suppose que il y ait des initiatives diplomatiques assez fortes, notamment sur une question qui est centrale dans le monde arabe, qui est la question de la Palestine.
Alors, autre dinguerie, Bruno, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Non.
Autre dinguerie, Laurent Wauquiez, qui concourt à la présidence des Républicains et qui veut faire parler de lui, on a bien compris, et qui propose d'envoyer les OQTF dangereux à Saint-Père-et-Miquelon, donc au large du Canada, parce qu'il dit-il, il fait 5 degrés, donc ils vont se les peler, et donc ils n'auront pas envie d'y aller. Donc c'est soit ils rentrent chez eux, dans leur pays, soit ils vont à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bruno Retailleau a réagi à cette curieuse proposition, on l'écoute.
Sur Laurent Wauquiez, écoutez, moi je ne veux pas en rajouter, je me suis engagé en plus lorsque j'ai déclaré ma candidature à ne pas polémiquer avec un compétiteur de ma famille politique. Voilà. Donc je ne polémique pas plus maintenant que demain, voilà, sur cette question, cette proposition qui est à première vue déroutante, mais chacun a le droit en démocratie de s'exprimer et de proposer.
Voilà, Bruno, il ne veut pas polémiquer, mais bon, un petit coup derrière la nuque quand même.
Bon, c'est l'histoire d'une proposition effectivement déroutante, pour reprendre le mot de Bruno Retailleau, même si, par ailleurs, il décrit, puisqu'il s'agit de l'installation d'un centre de rétention administrative, il y en a dans tous les territoires d'outre-mer, il n'y en a pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un archipel au large du Canada, où il fait très très froid. Vous avez oublié d'ajouter quand même un seul argument qui peut éventuellement, en tous les cas, pour comprendre pourquoi Laurent Wauquiez fait ça, c'est que ce territoire d'outre-mer, Saint-Pierre et Miquelon, ne fait pas partie de Schengen. Et donc, une fois que les OQTF seraient installés là-bas, ils ne peuvent pas rentrer. C'est la raison. Et en gros, ils iraient vers le Canada ou les États-Unis, et donc, sous-entendu, pas chez nous. Donc, c'est la raison. J'essaie d'expliquer, j'essaie de me mettre dans la tête de Laurent Wauquiez, ce n'est pas toujours très très simple. Même si... l'histoire de cette proposition, vous l'avez dit, c'est Laurent Wauquiez est candidat à une petite élection qui s'appelle pour un petit parti, la présidence des LR. Donc on a des petites polémiques et des petites propositions. C'est ça l'histoire, au fond, si on résume. C'est un peu désespérant, mais vous savez, les combats pour les partis, ça donne lieu à des combats assez souvent
bas de gamme,
parce qu'on s'adresse aux plus radicaux du mouvement. Je ne sais pas si ça va réussir à Laurent Wauquiez. En tout cas, il a réussi à tirer les projecteurs vers lui, ce qui n'était pas facile jusqu'à présent. Il joue, au fond, la base des LR, qui est peu nombreuse, même si elle est en train de grossir. On aura le chiffre exact des votants dans une semaine, peut-être autour de 90 000. Et donc, il veut jouer, évidemment, contre les chefs à plumes, comme il dit, qui soutiennent tous Bruno Retailleau. Ouais. Il est à la peine, effectivement, dans cette élection, et ça ne va pas très bien se finir.
Je ne saurais mieux dire que Bruno, mais quand même, tout à l'heure, le visage réjoui de Retailleau.
Oui.
Quand même, qui est le visage du vainqueur. Il se dit, tiens, ça y est, il a fait la gaffe du siècle. Ouais. Et je n'ai plus besoin, au fond, de faire campagne. Sur le fond, malgré tous les arguments avancés par Bruno, technique, je trouve que c'est quand même un choc très violent pour nos compatriotes d'outre-mer. C'est vraiment revenir à l'époque où on faisait de certains territoires des territoires de relégation. Donc, ce n'est pas la peine d'être sorti de Normal Sup pour ne pas connaître un minimum de l'histoire du pays. Un minimum de l'histoire du pays, de ce que ça représente. Et comment ne pas, quand on est d'outre-mer, ne pas se sentir piétiné par ce type de réaction, par ce type de discours. On ne peut pas aller plus bas que bas, me semble-t-il, dans la vie politique. Ouais.
Catherine,
L'image qu'on est en train de voir là actuellement, Laurent Wauquiez est avec M. Ciotti, qu'il avait lui-même placé pour lui chauffer la place au sein des LR.
Chef naturel, notre candidat naturel, disait-il à l'époque.
Voilà. Ciotti, qui maintenant est allié de Marine Le Pen. Moi, ce que j'interprète un petit peu la manière dont se déroule la campagne chez les LR, hein, c'est que ils essayent de se positionner très 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 à droite dans le cas où Marine Le Pen serait empêchée et qu'il y aurait une part de son électorat à récupérer. Et donc, ils sont en train de faire ce pari-là. Et l'un et l'autre, et Wauquiez et Retailleau. Et par ailleurs, ce que je crois qui desservira Wauquiez, c'est que Retailleau peut encore se prévaloir du verbe, alors qu'il n'aura pas de résultat, probablement. Et par exemple, je parlais tout à l'heure des dingueries de Retailleau, il s'est fait d'une part recadrer par le président, et d'autre part, il n'a rien gagné. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il prétend beaucoup plus qu'il n'obtiendra, mais est-ce que Wauquiez aura le temps de le faire valoir? Ça, je n'en sais rien.
De temps, vous avez raison, il y a une course contre la montre, parce que c'est vrai que l'effet créé par Bruno Retailleau peut s'essouffler.
Oui.
Parce qu'on voit de moins en moins, il peut annoncer des choses, il n'a pas beaucoup de résultats, donc c'est compliqué. Donc c'est un peu une course de vitesse. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez essaie de le corneriser un peu. Pour l'instant, ça ne marche pas trop, mais avec le temps.
Mais il reste encore 6 semaines.
Voilà, 6 semaines.
On a parlé d'une trumpisation des esprits à propos de la sortie de Retailleau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, c'est du trumpisme pur. Là.
C'est l'importation du Trump. C'est ce qui nous menace.
Oui. Hein, oui,
c'est voir un certain nombre de leaders politiques et de partis empruntés au trumpisme. Comme si les malheurs du temps n'étaient pas suffisants.
C'est n'importe quoi, ça n'a en plus aucune crédibilité. Je veux dire, en dehors de l'aspect strictement idéologique, et c'est sa fonction, pour le reste, on ne peut pas aller à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis Paris. Il faut passer par le Canada. Enfin, c'est complètement absurde. Il n'y a pas de structure pour accueillir. Enfin, c'est vraiment juste pour faire de la mousse. Hein.
Alors, avant d'accueillir Véronique Reissoult, je voulais juste revenir un instant, Bruna, refaire un retour juste sur votre livre, pour que, en quelque sorte, parce que vous nous expliquez qu'en fait, il y a autant d'économistes que de points de vue. Il y en a un qui va dire la fleur est verte et l'autre la fleur est rouge. Et finalement, est-ce que vous tranchez à la fin de votre livre et vous dites, voilà, quelles sont les politiques économiques qui marchent? Est-ce qu'un tel se trompe? Alors, il y a les grands, bien sûr, on se réfère à Keynes, à Schumpeter, etc.
Oui, bien sûr,
etc.
Les grands maîtres à penser.
Mais, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un maître à penser économique?
Non, je pense pas. Il y a différents points de vue. Ils parlent tous de quelque part. Ils sont politisés, malgré tout. Et donc, ils se réclament de Schumpeter, de Keynes, mais aussi pour certains de Milei. Enfin,
Schumpeter, c'est la politique de l'innovation, c'est ça ?
L'innovation, la destruction créatrice, enfin tout ce... Philippe Aguillon, par exemple, est l'incarnation française des néo-schumpeteriens, pour prendre un exemple. Mais non, on ne prend pas position à proprement parler. Par contre, très souvent, sur chaque thème abordé, il y en a une quinzaine en tout, hein, la dette, la mondialisation, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, etc. On met en perspective généralement des débats, parce qu'ils sont pour, ils sont contre, ils ne sont pas d'accord sur les diagnostics, ils ne sont pas d'accord sur les remèdes non plus. Et à la fin, on se rend bien compte que sur certains sujets, il y a des gagnants et des perdants. Mais après... C'est pas forcément à nous de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait.
Oui. Oui, mais on peut se demander. Bon, on sait que l'économie, Jean-Marie, est pas une science exacte. Évidemment, ça se saurait. Mais est-ce qu'il y a une économie qui est changeante? C'est-à-dire, est-ce que on peut, par exemple, le keynésianisme, hein, c'est ça vous,
ouais.
Est-ce que on peut, est-ce que ça, qu'est-ce qui reste aujourd'hui encore avec ce monde qui évolue? Quelle économie on pourrait caler sur notre C'est un peu une question un peu tordue.
Oui, c'est très compliqué.
C'est très compliqué, oui.
En même temps, on n'est pas non plus, il ne faut pas dire qu'on serait désarmé. Par exemple, la crise du Covid. La crise du Covid, on y a réagi avec des méthodes keynésiennes par définition. Et ça nous a permis de protéger les emplois, de protéger les gens, de protéger nos pays collectivement. Donc ça n'est pas rien. Et de la même façon, dans la crise actuelle déclenchée par Donald Trump, le réflexe des Européens va être de rechercher des voies de solution à travers, probablement, des emprunts communautaires. Avec la transformation du gouvernement allemand, les choses sont en train de se préparer. Et là encore, ce sont des méthodes classiques keynésiennes. Donc voilà.
Ouais.
Et ce qui est dramatique et affligeant, c'est de voir que le président argentin, par exemple, avec sa fameuse tronçonneuse, peut passer pour un modèle d'économiste aujourd'hui.
Oui, dans Éric Ciotti est un fan de...
Éric Ciotti, on fait la propagande.
Ouais.
Je veux dire, alors qu'à une époque, les États-Unis, avec ce qu'on a appelé le Reagano-Thatcherisme, c'est-à-dire Reagan et Madame Thatcher, portaient une vision de l'économie qui était libérale.
Oui, libérale.
Et qui a porté ses fruits, qu'on le veuille.
On baisse les impôts et on augmente le budget de la défense.
Voilà.
Dérivé du monétarisme, Milton Friedman, etc.
Mais il n'y a pas de remède miracle disponible.
On accueille Véronique Ressoult pour la politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Bon, je sens que vous allez nous faire rire, non?
Je sais pas, j'ai envie de moi personnellement, mais j'ai envie de rire.
Ouais. Qui est au cœur évidemment de toutes les conversations, ça écrase toute l'actualité.
Mais oui, vous en avez parlé, mais je pouvais pas faire autrement quand même d'en parler. Il y a un homme qui est au cœur de toutes les conversations dans le monde entier. Je vous ai mis, sur 7 jours, 45 millions de mentions. Sans parler des vues, des vidéos, sans parler, on va dire que c'est l'homme qui mobilise toutes les conversations.
Vraiment vivre dans un endroit reculé pour pas en avoir entendu
parler.
Ouais,
faut franchement vivre dans une grotte assez éloignée, même dans une grotte, je ne sais pas. Donc, toutes ces décisions sont débattues, c'est l'homme qui est critiqué par tous. Il y a quelque chose qui a en commun dans ces 45 millions de messages, c'est qu'en fait, il y a deux émotions partagées partout dans le monde, pour des raisons différentes, avec des conséquences différentes, c'est la peur et la colère. Et globalement, quand je regardais en France, on retrouve la peur et la colère. Donc là, je fais que France et que des émojis pour gagner du temps. Alors bon, les sous qui s'envolent et le petit cochon, on a compris. Hein, j'ai pas tellement besoin de vous dire ce que ça veut dire. Mais vous voyez, il y a pas mal de colère, il y a beaucoup de peur. Et globalement, dans la colère, il n'y a pas que de la colère contre lui, il y a aussi de la colère contre notre situation et notre impuissance. Beaucoup de commentaires autour de l'Europe, en disant que l'Europe est une des solutions. C'est dans mon dos, l'Europe. Hop, c'est là. Les uns et les autres disent l'Europe sera sans doute une solution, mais uniquement si on est unis. Et on voit bien dans la colère qu'ils ont l'impression que chacun va essayer de défendre son point de vue national et que l'union ne sera pas aussi possible que ça. Donc ça provoque un peu de colère.
Sur ce point, juste un petit rappel historique. Tout ce qui est relation avec l'extérieur, c'est de la compétence de l'Europe. Dès le départ, le début de la construction européenne, c'est une compétence quasi fédérale. Donc les uns et les autres peuvent faire des déclarations. Dans la réalité, ça se termine par une négociation entre l'Europe, et les États-Unis, l'Europe et la Chine.
Eh bien, réjouissons-nous, parce que c'est ce que l'opinion aimerait bien qu'il se fasse.
Donc. C'est ma relance, là ?
Non, c'est pas encore. C'était juste vous dire après, d'accord, c'est quoi les sujets qui ont été le plus commentés, la Chine avant et après. Donc, je vous ai pris ce message-là, mais globalement, la Chine est devenue le symbole de ce qui va se passer. C'était la mesure la plus commentée dans le monde entier, en France aussi, mais dans le monde entier. Le deuxième, donc c'est un symbole avant-après. Autre symbole, Monsieur Musk qui a donc très élégamment traité de crétin le conseiller au commerce de Donald Trump. C'est aussi un symbole, et lui, c'est un double symbole. C'est le symbole des milliardaires qui sont pas contents, les milliardaires de la tech, mais c'est aussi le symbole de ses soutiens qui commencent à le lâcher, et donc c'est pas mal repris. Autre symbole qui a été très repris là, beaucoup aux États-Unis, c'est l'ennemi numéro un de Trump qui devient un héros, Sleepy Joe, et on compare, et c'est une image qui est beaucoup partagée aux États-Unis. Sleepy Joe, on était tranquille et on gagnait. Voilà, c'était un temps différent, et en 45 jours, le feu et la colère et la baisse. Et autre symbole, cette petite image de Trump qui descend. Et donc, en gros, on comprend que l'opinion publique aux États-Unis commence à être un peu chafouine, ce qui explique peut-être sans doute le revirement.
C'est ce que nous expliquait Bruna il y a un instant, effectivement. Vous vouliez nous parler d'une tendance sur le web est issue de l'IA, de l'intelligence
artificielle. Et qui me fait marrer, moi, personnellement.
Ah bah,
voilà. Alors, en gros, vous pouvez prendre n'importe quelle IA qui vous plaît. Et ce que vous faites, c'est que vous allez fabriquer ce qu'on appelle un start-up pack. En gros, un personnage tout neuf avec ses accessoires. Alors, j'en prends un au hasard, par exemple. Par exemple, Monsieur Jeudi peut repartir tout neuf. Donc, c'est le principe, c'est quand on achète un jouet, il est sous blister et voilà.
C'est un marathonien, voilà. Ça ne nous a pas échappé.
Alors, on a les accessoires de Monsieur Jeudi. Donc, c'est un journaliste, la Tribune, il est aussi à BFM. Hop, marathon, hop, politique, hop, les jolies chaussures, hop, voilà.
Le costume, la cravate.
Le costume, il est impeccable. Il est impeccable.
Bien coiffé,
très bien coiffé. Donc voilà. Alors évidemment, on a dit Trump est au cœur d'eux. Ah, paf, lui aussi, il a son start-up kit. Alors c'est un start-up kit, pourquoi ? Parce qu'on aimerait bien que ce soit aussi joli que ça. Donc ça a plutôt plu. Et c'est les internautes qui l'ont fait. Donc des sous, une calculette, un crayon pour signer.
C'est
grosse mesure. Et voilà. Alors en France aussi, ils ont le droit à leur petit. Alors on a Monsieur Retailleau avec un petit chien, des menottes, tout ça. Voilà. Hop, voilà. On peut repartir avec la panoplie. Monsieur Bayrou, alors là, je préfère pas commenter, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est sorti comme ça, le burger. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis un burger?
Oui, parce que c'est au conseil municipal.
Mais oui, il a imité Burger.
Il a fait burger. Il reprenait la publicité d'une marque de burger, et il a fait
Et donc, ça a été vu 5 millions de fois, les gens ont adoré. Alors, on a aussi Monsieur Valls.
Il y a les grandes oreilles aussi, attendez.
Grandes oreilles.
Ça croit aussi.
Monsieur Valls, bon, visiblement, il aime bien changer de veste. C'est ce que les internautes ont retenu.
Et les internautes ont toujours Manuel Valls dans le collimateur.
Oui, toujours,
il
toujours.
Il est toujours en train de réussir sa mission.
Oui, voilà. Voilà. Donc là, il faut
laisser un peu tranquille, parce que pour le moment, il travaille vraiment.
Il n'a pas besoin de téléphoner, de postuler.
Il y avait aussi Marine Le Pen.
Et après, je voulais juste vous dire, ne faites pas n'importe quoi, parce que là, par exemple, je vais vous en montrer une, c'est ignoble. Vous dites, c'est qui ? Ben, c'est moi. Et c'est pas moi qui l'ai fait. On dirait une petite vieille, c'est épouvantable. C'est quoi ? C'est que c'est dans mon équipe, Joséphine l'a fait. Et donc, en fait, soit elle a une image de moi déplorable, soit le prompt n'était pas à la hauteur. Mais c'est pour vous dire, faites-la vous-même votre start-up kit, parce que quand c'est fait par les autres.
Vous n'avez pas eu de chance, Véronique, parce que moi, ce n'est pas moi qui ai fait mon.
Oui, et ben c'est tout. Vous avez une meilleure image que moi. C'est pas la peine de remettre le couteau dans la plaie. Donc voilà,
c'est
donc vous pouvez vous amuser à ça. Ouais, non, c'est très rigolo comme tendance, et il y a des trucs.
Mais comment faut faire pour.
Je vous l'ai envoyé, j'ai pas eu le temps
d'en
envoyer. Vous allez avoir le vôtre, Rosie.
Je vous l'envoie, je l'ai envoyé par mail à vous et à Flore qui a eu aussi son start-up.
Vous me l'avez envoyé, j'ai pas reçu.
Oui, vous regardez pas vos mails.
Je prépare l'émission, je peux pas tout faire. Merci à tous. Je vous rappelle le titre de votre livre, Tout est son contraire, avec Pierre-Henri de Menton aux éditions Bûcher-Castel, Comprendre les grandes controverse économique de nos jours, d'aujourd'hui. Et puis, je voulais citer le livre de notre consoeur de RFI, Marjorie Bertin, qui consacre un très bel ouvrage à Férouz, la chanteuse libanaise. Marjorie Bertin nous offre un beau livre sur le parcours de cet artiste devenu le symbole d'un pays et d'une époque. Moi, je chante l'humanité aux éditions Orient. Orient Édition. Merci à tous, merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique et merci à vous pour cette belle émission. Merci à tous. Merci Véronique.